Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview. Aujourd'hui, beaucoup de monde autour de notre table, à commencer par, dans l'ordre, Julie Banzé, bonjour.
Bonjour.
Ensuite, nous avons Alice Verstraten.
Bonjour.
Bonjour. Claire Bonnel.
Bonjour.
Et Denis Moplo.
Bonjour.
Bonjour. Alors, vous êtes ici pour nous présenter, entre autres, vos parutions. Il y a aussi la présence d'Alice qui va peut-être nous présenter avant tout ce que sont les éditions des Décolombole.
Oui. Alors, les éditions des Décolombole, elles sont nées en 2020 à Die, avec un sens du timing inné, puisque donc en janvier, je me suis dit, ça y est, je me lance. Voilà. Donc, moi, je suis anthropologue de formation, chercheuse en anthropologie, et je voulais... développer une maison d'édition où on puisse faire se rencontrer les pensées sociales et les arts de façon directe. C'est-à-dire dans chaque livre, il y a un dialogue entre des mots et des artistes visuels. Donc on a une collection d'essais, une collection de fiction, on a une collection de livres d'art. Et puis je travaille là pour l'instant sur la mise en place d'une collection de témoignages. Voilà, pour essayer de décliner tous ces regards sur le social.
Cette envie pour vous de partager est issue d'une envie particulière ?
Ben disons que si je suis devenue anthropologue, c'était pour écrire, en fait. Moi, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être écrivain. J'ai toujours eu un rapport très fort au livre. Et que faire de la recherche dans le Diwa, c'est quand même un défi, en voulant s'inscrire dans ce territoire-là, en étant loin des universités. Donc c'était, voilà, pour moi, une manière de proposer à ce territoire quelque chose qui soit... pointu, précis, de l'ordre de la recherche, mais joyeux et accessible. Enfin, voilà, quelque chose... En fait, on avait eu des expériences autour de mon sujet de recherche. Moi, je travaille en Argentine avec les maires de la place de Mai, qui cherchent leurs enfants disparus depuis la dictature des années 70. Et on avait fait des expos interdisciplinaires où moi, je venais avec des longs textes anthropologiques dont on m'avait dit « personne ne va les lire ». Et puis, il y avait des gravures, des peintures, du cinéma. Et en fait, on a eu beaucoup de monde, des gens très intéressants, et des gens qui venaient très intéressés, et des gens qui venaient lire, finalement, passer des heures à lire le texte parce que le tableau les avait interpellés, parce que le film leur avait posé des questions. Et donc, voilà, j'ai voulu continuer dans cette lignée du dialogue interdisciplinaire qui, vraiment, je pense, enrichit l'un et l'autre. Enrichit l'art, et l'art enrichit la recherche, enfin, voilà.
Qu'est-ce qu'être anthropologue aujourd'hui et sur quelle direction vous dirigez vos études précisément ?
Il y a plein de façons d'être anthropologue. Alors moi, je suis une anthropologue au départ plutôt des droits humains, on va dire en général, avec une visée de plus en plus décoloniale, parce que c'est une discipline qui a été très marquée par le colonialisme aussi. Donc voilà, j'essaye d'en sortir. La démarche de la microédition, elle appartient à ce mouvement-là aussi, en fait. Hein. C'est quelque chose d'une petite initiative à la marge, minuscule, mais qui peut faire bouger les choses quand même en dehors des grands groupes de l'édition, par exemple. Et l'anthropologie, c'est des petits liens pour faire des transmissions qui, à terme, pourront peut-être faire tomber des grands préjugés. Voilà, c'est le dialogue entre les peuples, quoi. Donc là, je viens de finir... il est paru du coup aux éditions des Décolombole, tant qu'à faire, hein, mais un dernier livre sur l'Argentine. Et puis maintenant, je m'intéresse à la question du passage des réfugiés, depuis Briançon jusqu'à Valence, sur cette vallée qui coule à travers le Diwa, et sur les accueils d'urgence, tous ces gens qui sont obligés de pallier les insuffisances de l'État et d'improviser.
Autour de vous, donc, des auteurs, des auteureux ou autrices, je vois. Comment vous retrouvez-vous au sein de cette maison d'édition, des Décolombole Julie Banzé, vous êtes autrice du dernier livre qui s'intitule d'ailleurs...
À tâtons.
On peut peut-être entendre un petit résumé de ce qu'il contient.
Alors, c'est un récit à propos d'une fille qui accompagne sa mère qui a la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est un récit sur les aspects très concrets et quotidiens de cette aventure plus ou moins réjouissante avec les rendez-vous médicaux, les problèmes, la relation qui évolue, mais aussi les fous rires, tout ce qui peut se passer dans cette relation et comment ça vient questionner leur affection et comment ça amène cette fille à réinventer un nouveau langage finalement pour réinventer une nouvelle relation avec sa mère et avec elle-même aussi. Et au-delà de comment est-ce qu'on traverse chacun les crises de l'existence pour réinventer un petit peu notre relation au monde. Alors, c'est mon premier récit édité. J'ai écrit des articles, par ailleurs, notamment sur le corps et sur la prison, parce que, par ailleurs, je suis enseignante de yoga, donc je travaille sur le corps. Et sinon, je prépare d'autres récits pour la suite. Mais c'est le seul qui a été édité pour l'instant.
Ensuite, il y a Claire Bonnel. Donc, vous-même êtes autrice. Et quel est votre ouvrage ?
Le livre qui a été édité à la maison d'édition des Colamboles, c'est « L'élégance du feu ». C'est un livre qui va parler d'une jeune femme pleine d'énergie et bien construite. Elle a plein de bonnes idées et elle va décider de déménager en montagne. Ça ne se passe pas dans le Diwa, mais les personnages qui vivent dans ce territoire-là pourraient être issus du Diwa. Et elle va rencontrer une réalité dans des confrontations avec d'autres mondes, des gens qui sont dans un territoire de montagne depuis longtemps. Elle va être confrontée à une réalité. Elle est prise aussi, c'est une jeune femme qui est prise dans sa génération, dans les contradictions de sa génération, avec des questions autour de la décision, de l'éducation des enfants. Donc on est vraiment dans un livre qui va mettre en avant les hésitations, les doutes, les questionnements des personnes aujourd'hui qui ont autour de la quarantaine et qui sont très conscients des enjeux écologiques et qui en même temps veulent trouver du plaisir et trouver goût à la vie, comment ils vont se dépatouiller avec tout ça. Voilà.
Et puis je passe à Denis Moplot qui est photographe donc, et vous êtes aussi là pour une édition relative à vos photographies.
Le livre qui est édité par les éditions des Colamboles s'appelle « Sur les terres des Colamboles », tout simplement. Et c'est un livre muet, c'est-à-dire qu'il n'y a que des photos. C'est le seul ouvrage sans texte. Donc, c'est des images du Diwa. Avant tout, c'est toutes les photographies prises dans le pays Diwa, qui va de Saillant jusqu'au Diwa, voilà. C'est vraiment la photographie locale.
Un ouvrage de forme carrée.
Alors oui, c'est un ouvrage qui a une forme un peu spécifique, c'est un carré, c'est un leporello, c'est-à-dire que c'est un livre accordéon qui se déploie, qu'on peut poser pour exposer en fait le contenu sur un meuble, par exemple.
Attaché avec du raffia.
C'est la fermeture, c'est le système d'accroche.
Ce qu'il en ressort de toutes les parutions, hormis pour Denis, il y a une grande place de l'humain donc, dans ces textes. C'est quand même un sujet qui vous tient à cœur, à chacune de vous.
Oui.
Et l'idée de la micro-édition, c'est d'être sur le lien, en fait. Le lien avec le lecteur direct, le lien entre auteur et éditeur direct, parce que pour avoir publié dans des plus grosses maisons d'édition, c'est quand même assez dépersonnalisé. À un moment donné, c'est des très grosses entreprises, tout est très compartimenté. Alors, ce qui peut être réjouissant, c'est d'être un peu des hommes et des femmes orchestres, c'est de faire un petit peu de tout. Voilà, et de se connaître bien et d'aller d'accompagner physiquement nos livres dans les petits salons, dans les librairies, de les faire vraiment vivre. Donc l'humain, il est important jusqu'au bout, c'est-à-dire voilà. Moi, j'essaye de faire attention aux auteurs pour que leurs livres leur ressemblent aussi. Voilà, il y a des choix esthétiques qui sont faits avec eux. Le choix du dialogue avec les artistes est fait avec eux, évidemment, c'est pas l'éditeur qui vient le coller dessus, enfin voilà. Et puis les thématiques, les éditions des Colamboles, c'est un petit peu l'intersection, la rencontre des droits humains et des questions écologiques. Donc ça se décline sur différents livres, et finalement même celui de Denis, parce qu'on a cette démarche aussi de dire on veut produire le plus localement possible, tout est imprimé, soit pour le livre de Denis qui est vraiment artisanal, relié à la main, c'est imprimé à dit par Héraldi, sinon je reste en Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc le livre de Denis, il présente finalement le biotope des éditions des Colamboles. C'est là qu'on est né, c'est là qu'on grandit. Et après, on accueille bien sûr des gens qui viennent d'ailleurs. Dans le livre de Julie, on a des photographies prises par Denis, des sculptures de Pascal Coutant, qui est à Paris. Dans le mien, Face à l'abîme, on a des œuvres de Michel Lepère, des gravures, elle est à Vinsobres. Et puis des sculptures textiles de Ute Wolf, qui est à Montréal. Dans le livre de Claire, on a des photographies de Cécile Verstraten et de Tristan Plot qui, eux, sont dans la Vienne. Donc voilà, on s'ouvre quand même. On n'est pas dans le régionalisme, hein, mais on est dans l'humain. Voilà.
Le maître mot aussi, c'est entrelacer les sciences humaines et, ou sociales. Et pour cela, à l'image de vous, Alice, d'être anthropologue, est-ce que parmi vous, votre exercice professionnel vous prête à rédiger ces ouvrages que vous présentez ?
Je veux bien prendre la parole. Moi, je suis médiatrice familiale. C'est mon travail depuis des années. J'avais écrit déjà d'autres livres qui traitaient de médiation familiale, qui avaient été publiés dans une grande maison d'édition, mais une maison d'édition professionnelle. Donc l'écriture, alors à la fois la médiation, c'est dans l'oral, l'oralité, le dialogue. Mais voilà, il y a des. J'étais quand même accoutumée du livre et de l'écriture depuis des années. Et la médiation, ben voilà, c'est le dialogue. Et je rebondis sur ce que disait Alice avec les éditions des Colamboles, où on est dans le dialogue entre auteur et artiste, et entre le territoire et puis le monde. Peut-être, voilà. Une manière de parler.
Et pour vous, Julie ?
Moi, je suis j'ai travaillé dans l'éducation populaire longtemps. Et la question de l'écrit, elle était là pour accompagner aussi la relation. Comment est-ce que c'était un écrit collectif aussi qui pouvait émerger parfois. Et comme je disais tout à l'heure, maintenant, je travaille beaucoup sur le corps, mais le corps aussi en lien avec les mots, avec le langage, avec la poésie, et voir comment est-ce que... au quotidien, dans nos pratiques les uns les autres, finalement, notre langue, elle est aussi incarnée et vivante. Et il me semble que ce qui relie aussi dans les Colamboles, c'est un attachement aussi de voir comment des histoires personnelles et vécues, elles sont en écho avec les grands sujets du monde aussi. C'est pas des abstractions.
Denis Moplot, pareil, vous, vous êtes plus connu sur l'informatique, il me semble.
C'est ça, mon métier de base ici, c'est de la prestation informatique, de l'accompagnement auprès de gens. Donc, et la photo, je la pratique entre autres en allant visiter mes clients qui sont dans le Diwa, et des fois je m'arrête, je vois un truc très beau, je fais la photo. C'est une partie des photos du livre sont celles-ci, en fait, dans mes déplacements ici. Pour l'accompagnement.
C'est vrai que dans le Diwa, on voit souvent les gens sur une petite lorgnette. Voilà, il est informaticien parce que dans le Diwa, c'est ce qui permet de vivre aussi. Et en fait, il a toute une formation artistique derrière. L'école Boulle, les arts déco. Voilà, on a souvent plusieurs vies dans une vie. Et dans le Diwa, c'est particulièrement fort, il me semble, parce qu'on est tous en reconversion, en tâtonnement. Voilà.
Eh bien, nous allons passer à la présentation de chaque livre, celui de Julie Banzé d'ailleurs. De quoi traite particulièrement ce livre à tâtons ?
Comme je disais tout à l'heure, ça c'est la relation entre une mère et sa fille à travers la maladie d'Alzheimer, mais voir que finalement comment les relations peuvent se transformer, comment est-ce qu'on est parfois figé dans nos relations, mais aussi dans notre cadre social, professionnel, dans la vie, dans des situations ou des images de nous-mêmes, et comment est-ce que ça peut évoluer à travers une crise que nous impose la maladie ou un changement, et finalement comment est-ce que ça nous permet aussi d'ouvrir d'autres regards sur le monde et de reconstruire des relations d'espoir aussi dans des situations figées au niveau économique, social, etc.
C'est un livre qui traite de personnes réelles ou alors vous êtes plus dans...
En fait, ça part de multiples situations, de cet accompagnement entre une personne souffrante ou en l'occurrence d'Alzheimer et de personnes qui peuvent l'accompagner. Donc ça part de plusieurs situations réelles, notamment la mienne, mais aussi d'autres situations.
Et c'est vrai que ce qui est très beau dans ce livre, c'est l'exploration du langage, en fait. Parce que quand on est face à une maladie de la mémoire, on a des gens qui perdent peu à peu les codes et il faut les réinventer avec eux, se réajuster sans arrêt. Et c'est vraiment un livre qui est écrit comme des petites capsules temporelles à chaque fois et on bascule dans un nouveau niveau de relation et dans un nouveau niveau de langage chaque fois. Une écriture qui est très belle et qui bascule parfois vers la poésie, au sens très positif du terme, hein, pas gnangnan du tout, au sens vraiment du tâtonnement, du jeu avec les mots. Et ça nous invite aussi à apercevoir ces gens qui sont malades de la mémoire complètement... Enfin, je trouve que la vision est très différente de ce qu'on nous offre d'habitude. C'est pas forcément des gens qui ont perdu quelque chose, c'est des gens qui entrent dans une autre façon de vivre, dans une autre modalité d'être. Et Julie nous invite vraiment à voir la dignité du vivant jusqu'au bout, sous toutes ses formes.
Mis à part votre expérience personnelle, vous êtes allé aussi au contact de personnes qui ont une personne souffrante.
J'ai, au fur et à mesure de l'existence, comme tout un chacun, je crois, rencontré, traversé des moments difficiles de la vie, moi personnellement, ou des gens qui m'entouraient. Il me semble que c'est des expériences qui nous sont propres, qui sont universelles en réalité. Et donc à partir de là, c'est plutôt de voir comment est-ce que, comme disait Alice, on peut essayer de le faire passer dans le langage, c'est-à-dire cette question de quand le langage s'échappe ou quand les situations nous débordent, comment est-ce qu'on ça se malaxe dans la langue et comment est-ce qu'on peut faire naître une émotion en soi-même, déjà pour mieux comprendre et ensuite dans l'autre. Donc c'est pas du tout un travail journalistique, c'est un travail de pétrissage de l'émotion pour que ça vienne nous toucher chacun dans l'intime de ce qu'on peut ressentir et peut-être nous aider à transformer une expérience parfois douloureuse ou enfermante en quelque chose qui peut se déployer vers une situation peut-être inattendue, mais qui peut-être plus sujette à de l'espoir aussi.
Qu'est-ce que vous voulez partager dans votre expérience, dans cette parution? Est-ce que c'est aussi des conseils pour des personnes qui se retrouvent dans la même situation?
Alors l'objet, ce n'est pas un livre de conseils pour les aidants, tout savoir sur Alzheimer de A à Z.
On est vraiment sur un roman, c'est vraiment de la littérature. Et c'est vrai que la fiction, c'est un biais qui parfois permet de dire les choses de façon beaucoup plus profonde, en tout cas qui va aller toucher plus le lecteur au cœur qu'un essai. Moi, je pense que l'un et l'autre sont également valables. Et bien sûr que je pense que ça a un intérêt pour des personnes qui traversent cette situation de se dire, voilà, je ne suis pas seule et tel personnage me propose tel chemin. Mais voilà, c'est jamais qu'un personnage qui vit une histoire et qui nous est raconté, quoi. Ça permet quand même de sortir le lecteur de sa solitude, je pense, parfois.
Oui, mais tout à fait. Voilà. Je crois que quand on traverse des moments comme ça, difficiles, que ça soit explicitement Alzheimer ou autre chose, c'est toujours un soutien. En tout cas, je crois que c'est aussi ça que nous apportent les livres, un soutien de rencontrer d'autres humanités qui ont traversé des temps similaires.
Alice Verstraeten, vous-même proposez un ouvrage également.
Oui, alors moi j'ai écrit « Face à l'abîme ». Penser l'humain malgré la terreur. Donc là, c'est un essai sur la dictature argentine, le basculement de la dictature dans le génocide, puisque donc, la dictature argentine a fait disparaître 30 000 opposants qu'elle a enlevés, torturés, assassinés, dont elle a fait disparaître les corps. Et les familles de ces opposants disparus les cherchent depuis que les crimes ont été commis. Donc les plus connus, ce sont les maires de la place de Mai qui tournent en rond devant le siège du gouvernement depuis le 30 avril 1977, tous les jeudis. Et donc il y a une première partie du livre qui est plus historique sur ce qui s'est réellement passé, et la deuxième partie qui est la remontée de l'abîme, ce que j'ai appelé l'abîme, depuis le fond de l'horreur au fin fond des camps. Il y a quand même la résistance qui s'est mise en œuvre, il y a ces mères qui à l'extérieur ont commencé à se montrer dans l'espace public. Donc qu'est-ce qui se joue dans cette résistance qui reprend beaucoup les codes de l'art en plus, en fait, qu'est-ce qu'elles mettent en scène dans l'espace public? Et comment, voilà, comment on en sort finalement en retravaillant l'humain, en essayant de se voir comme humain, de voir l'autre comme humain, de reconstruire une solidarité alors qu'on a en face un régime qui nous a dénié toute humanité. Et c'est un texte qui est construit à partir des témoignages des gens. Donc il y a 33 témoignages bilingues et j'ai essayé de l'écrire de façon la plus abordable possible, en prenant soin de l'écriture pour que ce soit le plus littéraire possible aussi, et que ce soit pas jargonnant, et que les gens puissent naviguer dedans. Voilà, les témoignages sont mis en valeur avec des dessins qui ont été faits soit par moi, soit par Michel Lepère, et du coup, les gens peuvent, s'ils veulent, naviguer dedans, aller lire juste les témoignages, aller chercher un petit peu de théorie s'ils le veulent, aller chercher des extraits de carnets de terrain que j'ai mis brut dedans aussi, de mon vécu dans les manifestations, etc. Voilà, essayer de proposer un objet qui soit un peu hybride dans la forme, hein. C'est pas très courant pour les essais, mais je pense que c'est vraiment un chemin à ouvrir pour faire enfin de la recherche qui soit destinée au peuple, quoi, qui ne soit pas que pour les chercheurs. Donc c'est le premier de la collection des essais, mais c'est le cobaye. Voilà. J'ai plein d'expériences avec lui et puis on attend les suivants.
Suite à la chute de la dictature en 83 ou 84 ?
En 83,
oui. 83, et suite à la guerre des Malouines, je crois qu'il y avait mis un coup d'arrêt à l'époque de ce pouvoir. Comment s'est opérée cette transition de cette dictature à la démocratie ? Et qu'est-ce qui a amené justement ce cheminement à cette élection, la dernière élection argentine avec ce président dont je ne me souviens pas du nom ? Comment s'est opérée cette transition de votre regard ?
Ah, fou. Alors, déjà, la dictature, effectivement, c'est la guerre des Malouines qui a mis un coup d'arrêt, mais il y avait une conjonction de choses. Il y avait les maires de la place de mer, en fait, qui commençaient à être visibles au niveau international et qui cassaient complètement l'image de la dictature. Il y avait surtout une crise économique monstrueuse, parce que c'est la dictature argentine qui a surendetté le pays, globalement en privatisant les biens publics et en nationalisant les dettes privées, si on schématise. Donc là, ils étaient arrivés à un point de rupture militaire, économique et sociale avec les maires de la place de mer. Donc quand ils ont quitté le pouvoir en 1983, en fait, ils ont négocié le retour à la démocratie en échange de lois d'impunité. Malgré tout, en 1985, il y a eu un premier procès, un procès fleuve, mais qui a été suivi très rapidement de décrets d'amnistie ou d'amnésie. Et les dictateurs ont tous été libérés. On a vécu sous une chape de plomb d'impunité jusque dans les années 2000, où là, Néstor Kirchner est arrivé au pouvoir et a nommé des juges qui, eux, étaient plus progressistes, qui ont déclaré les lois d'impunité anticonstitutionnelles, et on a pu recommencer le chemin des procès. Donc depuis, il y a eu des dizaines de procès fleuves. Le principal dictateur, parce que c'était une junte, donc c'est vrai que l'Argentine est moins connue que les autres pays au niveau dictatorial, parce qu'il y a une espèce de brouillard sur les chefs. Mais on va dire le principal, Jorge Rafael Videla, il est quand même mort en prison, condamné pour génocide à perpétuité. Donc ça, c'était quand même une victoire énorme. Et c'est en fait le seul pays au monde où il y a eu des procès comme ça, des recherches de vérité, d'archives, de témoignages, alors que les militaires étaient invaincus. Ils ont négocié le retour à la démocratie. Ce n'est pas Nuremberg où des vainqueurs ont jugé des vaincus. On est sur un schéma complètement différent. Du coup, une évolution qui a été longue, lente, mais pacifiste. C'est-à-dire que c'est les maires de la place de Mai ou l'association Hijos des enfants de disparus ou l'association des anciens détenus qui n'ont pas lâché le morceau, qui ont continué à militer pendant toutes ces années-là, qui avaient le nom, l'adresse des tortionnaires et qui ne sont pas allés se venger. Qui ont demandé la justice, jusqu'à la mettre en scène dans l'espace public. Donc ça, je le raconte dans le livre, avec des faux procès théâtraux devant le domicile du tortionnaire, qui déroule son curriculum mortae, comme ils disent. Mais voilà, c'est un pays profondément pacifiste quand même, alors qu'on a cette image ici de « Ah, les dictatures latino-américaines, ces latinos, ils aiment les pouvoirs autoritaires bon. ». En France, à la Libération, c'était beaucoup moins tendre que ça. Après, Javier Milei, oui, c'est le nouveau président argentin, c'est assez terrible parce que ça a un parfum de retour négationniste de l'histoire et c'est très, très effrayant. D'autant plus que c'est un personnage qui n'a aucune limite. Je pense que c'est quelqu'un que rien n'arrête parce qu'il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas de remords, il n'y a pas de... Voilà, tous les moyens sont bons. C'est donc un ami de Trump et de Bolsonaro. C'est quelqu'un qui est prêt à faire table rase de tous les acquis sociaux du siècle dernier. Donc c'est très effrayant et pour la société et pour la planète, parce que l'Argentine est par exemple une des plus grandes réserves d'eau douce du monde.
Est-ce qu'on rejoint la société du spectacle avec cette notion de personnage un peu, comment dire, extravagant
Oui. Bah, Javier Milei, il est apparu sur les plateaux de télévision, en fait. Hein. C'est un polémiste, hein. Je ne sais pas comment l'appeler. Donc, il est économiste de formation, mais il est pour un monde ultra-libéral, totalement dérégulé. C'est, oui, il est dans la veine des présidents milliardaires, en fait. Hein, des présidents, voilà, comme en Argentine, ils l'ont déjà connu, pas au mandat précédent, mais celui encore d'avant. Avec Mauricio Macri, qui était aussi, qui finalement lui a été élu parce qu'il était connu comme patron d'un club de foot. Hein. Voilà, c'est vrai, ou c'est un petit peu un Berlusconi aussi. Enfin voilà, c'est toute cette famille de présidents bouffons. Mais en fait, c'est des bouffons, mais ils sont très très dangereux. J'entends des gens qui me disent parfois, mais c'est un bouffon, ça durera pas, dans 5 ans, on le renvoie chez lui. Or, c'est quand même ce qui se disait d'Hitler quand il est arrivé au pouvoir. Vous inquiétez pas, c'est pas le plus dangereux de la bande. Il a un côté tellement ridicule et tellement caricatural, les gens ne le suivront pas. Ce qui est fou, c'est que parfois l'outrance paye, quoi. Donc voilà, là, évidemment, les réseaux de militants des droits de l'homme en Argentine sont surmobilisés, mais voilà, il faut tenir. Il faudra tenir 5 ans. Ça va être long.
Si ce n'était que là. Claire Bonnel, vous-même, donc, vous proposez un ouvrage. On peut peut-être rappeler le titre.
L'élégance du feu. Voilà. Le feu a pas mal d'importance. Et au niveau concret, et au niveau symbolique aussi dans cet ouvrage, dans ce roman.
Le feu, c'est un roman, donc, qui traite de quel aspect du feu ? C'est le tissu social ou c'est quelque chose qui est plus mystique, peut-être ?
Alors, le feu, là, il est dans le titre, mais c'est plutôt une image qui va revenir souvent dans le roman. Ça n'est pas le thème central du roman. Le roman traite plutôt de relation, j'ai envie de dire, entre cette jeune femme, Garance, qui arrive en montagne et qui va rencontrer différentes personnes et qui va être confrontée notamment, par exemple, à une relation avec quelqu'un qui est assez radical au niveau écologique, qui se coupe tout à fait de la société. Et quelles vont être ses attitudes à elle face à cet individu étrange qui la fascine aussi. Et on va voir donc du coup différentes manières de vivre en conscience les questionnements écologiques et humains. Voilà, et il va y avoir donc du coup, tout en nuances, différentes manières de le vivre. Dans l'éloignement, alors j'aurais envie de parler de distance et d'éloignement dans les relations. Comment ce curseur-là, il va être... comment il va bouger, voilà. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi beaucoup la question d'éducation, puisqu'elle est mère de 2 jeunes enfants. Et qu'est-ce qu'elle peut leur transmettre d'elle, de ses idées, voilà. Comment est-ce que la vie, est-ce que les choses se transmettent par les idées, est-ce qu'elles le transmettent par sa manière de faire, et en même temps, elle va être aussi sujette, comme tout le monde, à des contradictions qui va la mettre en porte-à-faux. Et on va la voir vivre pendant une année. Le roman se déroule sur une année dans le massif de Loisan, dans les Écrins.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du Diwa.
107.5
101.7
FM.
Ce personnage radical est-il en quelque sorte un ermite ?
On pourrait le voir comme ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui se cache. C'est quelqu'un qui n'a plus... désolé pour les lecteurs qui vont le lire, je vais dévoiler un petit peu, mais c'est quelqu'un qui ne veut plus exister administrativement parlant, voilà, qui se cache et en même temps qui vit dans un village et qui a des relations avec les autres, mais des relations empreintes de mystère. Et on va découvrir petit à petit ce qui l'a fait arriver à cette position aussi radicale que ça. Et on va voir sa vie, on va voir voilà, toute son évolution, combien aussi un rapport... alors là, on va en parler du feu, puisque c'est après un épisode de feu qu'il en arrive à se couper radicalement du monde. Ce que ça dit aussi de la société, de sa brutalité, de sa violence. Mais ce n'est pas un livre qui est violent, mais qui va parler de la violence de la société, qui va voir comment des individus vont réagir par rapport à cette violence. Il y a aussi de la poésie dans la nature, mais les rapports humains, ce n'est pas toujours dans la poésie. Parfois, c'est difficile.
Garance donc découvre ce personnage. En quoi est-elle subjuguée par sa présence et puis son mode de vie?
Garance, elle va être fascinée par cet homme et il va se créer une relation dont elle va se demander est-ce que c'est de l'amour, est-ce que c'est pas de l'amour, de la fascination, est-ce que je peux aimer quelqu'un d'aussi différent de moi? Et elle a envie de l'aider. Elle a envie de l'aider. Elle a plein de bonnes intentions et elle va confronter ses intentions de très humaines. Elle est profondément humaine. Elle va confronter aussi à une réalité qui fait que parfois il y a des personnes qui n'ont pas envie d'aide, qui n'ont pas envie d'être aidées. Et il me semble que ce personnage-là, il est dans cette situation. Il veut affronter la vie sans aide. Et ça va nous parler aussi de, voilà, de toutes ces populations qui sont, qui ont choisi aussi de, d'être en rupture et qui n'ont, voilà, qui n'ont pas forcément envie d'être aidées, en tout cas, qui vont être dans des refus. Voilà, mais peut-être que j'en ai trop dit. Les futurs lecteurs me pardonneront, j'espère.
Voilà. Et, par exemple, cette personne, donc cette personne radicale, est-ce qu'il y a un écho qui s'opère au sein de Garance pour s'y intéresser et vouloir l'aider? Mais est-ce qu'elle-même n'est pas aidée aussi dans cet échange?
Bien sûr, elle va y trouver. Elle y trouve son compte. Elle y trouve son compte et elle va apprendre aussi à gérer une certaine frustration dans cette rencontre. Elle va y apprendre comment, jusqu'où on peut aller. Voilà, jusqu'où elle peut aller. Et elle va être quelque part fascinée vers ça. Et en même temps, elle-même, elle est prise aussi dans une certaine douceur de vivre qu'elle recherche et auquel cette personne-là va la confronter. Et puis, il va y avoir des surprises, mais je ne dévoile pas tout, parce que c'est quand même un roman dans lequel on est pressé de savoir la suite. Et il va y avoir quelques belles surprises que je n'ai pas envie de dévoiler là. Et j'invite les lecteurs à s'y référer. C'est l'élégance du feu. Et peut-être, j'en profite, si Alice, tu me permets de dire que ces livres, ils sont à la librairie de Die, à Mosaïque, et qu'on peut les trouver assez facilement.
Alice Verstraeten, comment sont sélectionnés ces ouvrages ou comment vous mettez un point pour les soutenir?
Alors, sur le livre de Claire, je voulais dire, c'est ce qui m'a intéressé dans ce livre-là, par exemple, c'est qu'il y a une dimension, je trouve, micro-historique, en fait. C'est un témoignage sur notre vie aujourd'hui dans nos montagnes. Alors, bon, ça se passe dans l'Oisans, mais ça pourrait presque être dans le Divois. Il y a quelque chose qui parle de notre génération. Enfin, moi, j'ai 40 ans. Claire, comme elle est médiatrice familiale, elle voit quand même passer beaucoup de couples, beaucoup de familles, et je trouve qu'elle a quand même compris quelque chose de cette génération-là, de nos enjeux, quand on a un milliard de questions qui s'ouvrent, des bases de psycho, des bases de philo, des bases de sociaux, le réchauffement climatique et l'éducation des enfants, et qu'on peut se retrouver complètement paralysé par toutes nos bribes de connaissances à devoir faire des choix, prendre des décisions et vivre en fait quand même avec toutes nos contradictions. Et voilà, je trouvais que c'est une écriture qui est très, je sais pas, brute, enfin, c'est quelque chose, c'est la vie de tous les jours, il y a beaucoup de dialogues, c'est réaliste, hyper réaliste sur le quotidien, avec des petites touches, des pas de côté, et un plaisir littéraire, évident. Hein, mais voilà, c'est une écriture qui est très différente de celle de Julie. Voilà, moi, je suis très éclectique en tant que lectrice, et je le suis en tant qu'éditrice aussi. Hein, voilà, il faut que ça parle de l'état de notre société, d'une façon ou d'une autre. Il y a mille et un chemins, en fait, hein, donc j'accepte des manuscrits qui sont assez différents. Le fait est que, comme je travaille, que j'ai le lien social à cœur, ça a commencé avec les liens, donc effectivement, ça germe dans le Diwa. Pour l'instant, c'est des auteurs Diwa. J'ai encore d'autres manuscrits Diwa à travailler avec les auteurs. Donc voilà, après, on s'ouvre progressivement. Je n'avais pas du tout l'ambition de faire du local à tout prix, mais il se fait qu'en fait, il y a des gens formidables dans le Diwa. Il y a plein de choses, il y a un vrai foisonnement. Et donc, il faut pouvoir en profiter. Les gens ont parfois l'impression que les grands écrivains, les grands artistes, c'est toujours ceux qui vivent loin et, en fait, oublient de regarder à côté d'eux oui, je n'ai pas d'autre mot que le foisonnement. La bibliodiversité qu'on essaye de développer, nous, elle vient de la biodiversité du Diwa. Voilà. Le livre de Denis aussi. Hein, là, on développe plus la part artistique, mais ça s'est aussi construit par des liens. Denis, c'est lui qui fait le site web de la maison d'édition. C'est un bénévole qui est très, très actif dans l'association, parce que les éditions d'École en bol sont associatives. Et bon, petit à petit, il m'a montré ses photos et je me suis dit aussi, mais en fait, c'est un vrai travail professionnel artistique qui doit pouvoir être montré, quoi.
Denis Mauplot, justement, donc vous citiez ces escapades professionnelles qui vous amènent à photographier ça et là des paysages, des points de vue qui vous émerveillent en quelque sorte. Et c'est un peu une transmission de ça que vous proposez.
C'est un regard que je veux placer. C'est-à-dire que j'ai une formation artistique, ce que disait effectivement Alice, j'ai fait des arts déco, l'école Boulle. Donc, je n'ai jamais quitté la photographie en réalité. Je l'ai toujours fait de façon personnelle. Et là, dans mes parcours du Diwa, qui est très, très beau, hein, c'est vrai que ça aide, vachement. En fait, il y a des endroits qui sont tellement bien. Et selon l'heure, la journée, la lumière, l'enseignement, je travaille beaucoup le cadre. Donc dans mon cadre, je me dis là, ça va rendre quelque chose. Je travaille après les images. Hein, il y a de la post-production, pas de retouche. Je ne retouche pas les images, mais il y a de la post-production pour la mettre en noir et blanc parfois. En fait, la plupart des images sont en noir et blanc dans le livre. Mais c'est transmettre ce que je ressens, ce que je vois, qui est dans le livre. Il n'y a pas de décrit, mais il y a une transmission d'une sensation, d'un sentiment. Voilà, ça interroge. Voilà, j'essaye de faire que les gens s'interrogent ou s'émerveillent simplement s'ils trouvent ça beau, le rendu de ce que je vois, en fait.
Quelle est la place de la représentation figurative dans vos photographies?
Alors, étrangement, il y a absolument pratiquement jamais un seul humain dans mes photos, mais l'homme est toujours présent, parce que ne serait-ce que dans un paysage, même ici, il y a toujours un fil, une route, une voiture qui passe. Enfin voilà, il y a une intégration systématique dans mes photos de l'humain et de sa trace et de sa présence dans l'espace qui nous entoure, quoi. C'est pas la jungle amazonienne. Donc je ne l'enlève pas, j'efface pas les données qui pourraient dire « Oh mince, il y a un poteau là ». Au contraire, je mets en scène le poteau dans ma photo. Voilà, donc l'homme est là, mais pas visible, en fait. Il y a un personnage, je crois, sur une seule des photos dans le livre.
Pour vous, Alice, ce travail de Denis, c'est en quelque sorte le placement d'un décor?
Oui, c'est révélé un petit peu aux gens, voilà, comme je disais, notre biotope, les montagnes où on est né, ce qui nous entoure et qui nous malaxe et qui nous fait quand même, hein, notre sensibilité. Je pense que là, tous autour de cette table, on partage quand même une sensibilité pour ces lumières, ces arêtes et ces vallons. Et voilà. Avec Denis, on a travaillé la narration, parce qu'en fait, les images aussi doivent être travaillées sous forme de narration. Il n'y a pas de mots, mais il y a quand même un récit. Donc, des images qui sont mises en vis-à-vis. On travaille sur le prolongement d'une courbe ou d'une crête ou d'une ligne d'une photo à l'autre. Enfin, il y a un récit qui se fait malgré tout en dehors des mots. Sur la question de la transmission des livres comme le Leporello, c'est assez magique parce qu'en fait, c'est des livres qui peuvent être utilisés sur scène, qui peuvent être utilisés en lecture. On les déploie aussi à partir des ouvrages manufacturés comme le roman de Claire. On a fait un Leporello, un livre artisanal avec les photos qui sont dans le livre et ses textes. Et quand au Festival d'Avignon, on avait fait une lecture avec cet objet dans les mains, tout de suite, c'est un objet qui amène les gens de façon beaucoup plus curieuse au livre. C'est un objet qui fait une mise en scène à lui tout seul, je trouve. Voilà. Et Denis, sur la transmission, il est assez bon, il me semble, quand même. Il fait des ateliers. On en a fait un à la médiathèque de Die l'été dernier, parce que donc, les photos qui sont parues dans Leporello ont été exposées à la médiathèque de Die tout l'été. Denis a fait une espèce de petite randonnée photo avec des volontaires. C'était une très chouette expérience parce qu'ils sont tous partis sur le même parcours avec lui et ils sont tous revenus avec des photos différentes, au point qu'on s'est dit après, je me suis jointe à eux pour la sélection des photos, mais on a fait la même promenade ou on n'a pas fait la même promenade? Donc voilà, apprendre à travailler sur son regard, ce qu'on voit, ce que l'autre voit, hein, c'est très intéressant. Et les éditions des Colamboles veulent faire ça aussi, c'est-à-dire qu'on propose des expos, on a un catalogue d'expositions interdisciplinaires pour les médiathèques et autres lieux, et on propose des ateliers. Denis fait des ateliers photo, moi des ateliers de reliure ou d'écriture, Claire des ateliers d'écriture. Voilà, on essaye de proposer qu'il y ait une émulsion qui se fasse autour de ce plaisir de créer des livres.
L'ouvrage de Denis, donc, vous y avez amené votre soutien, votre expérience, votre compétence sur le modèle à imprimer. Est-ce que c'est un peu l'action que vous opérez auprès de chaque auteur que vous éditez?
Ah ben, c'est chaque fois un dialogue avec eux. D'abord, ben, on est d'accord ou pas sur le manuscrit. Moi, j'ai toujours des petites remarques éventuelles à faire et on voit si on se comprend, si la personne entend ce que je lui dis, si ce qu'elle me propose me va. Enfin voilà, il faut qu'on se comprenne dans la matière du travail, on va dire. Après, oui, c'est toujours un dialogue, peut-être encore plus du fait qu'il y ait cette entrée artistique. Le livre de Denis est uniquement photo, mais dans tous les livres, il y a de l'art. Et c'est quelque chose de pas simple à tisser encore. C'est encore autre chose que l'écriture des mots, quoi, d'arriver à structurer le dialogue entre mots et images, ou les images les unes face aux autres. Donc, par exemple, pour le Lébrelo de Denis, c'est quand même pour lui une démarche particulière, parce qu'en fait, toutes les photos sont recadrées, parce qu'on a la contrainte du carré. Et lui, il avait des photos qui étaient dans des formats plus classiques de photos. Il appartient pas au règne Instagram, donc il avait des photos de tous les formats. Et en même temps, ça permettait de proposer autre chose que la photo que les gens peuvent acheter. D'ailleurs, des photos grand format de Denis Moplot, pas de souci. L'objet livre, lui, c'est un travail spécifique. Et donc, dans ces carrés, ça nous a permis de jouer et de justement chercher des continuités, des jeux de reflets d'une image à l'autre. On a pu faire un espèce de grand puzzle, et on l'a fait à deux, effectivement, quand même. Bon, j'avais co-réalisé un film documentaire en 2009, et de cette expérience-là, je retire qu'en fait, être éditeur, c'est un peu comme être monteur de cinéma. C'est-à-dire qu'on arrive à la fin d'un travail avec un regard neuf, un petit peu. Les auteurs, au bout d'un moment, ils ne voient plus rien dans leur travail. Enfin, on ne sait plus si ce chapitre-là, on ne sait même plus si, avec le copier-coller, en plus, on ne sait plus s'il est avant ou après. Parfois, au bout d'un moment, on n'a plus de recul, et l'éditeur, il sert à avoir ce recul-là. Et bon, bah, du fait de voir passer beaucoup de manuscrits, je pense qu'à un moment donné, je peux avoir relativement rapidement ce qui cloche. Parfois, je ne le sais pas moi-même. Hein. Je dis, là, il me semble qu'il y a un souci, mais je ne sais pas encore ce que c'est, et on le trouve en chemin. Mais... Voilà. Et donc, pour mon livre à moi, évidemment, j'étais coincée parce que je ne pouvais pas faire ce travail d'édition. Donc, j'ai délégué à plein d'amis et bénévoles de la maison d'édition qui ont tous relu, m'ont fait des retours hyper précis. Donc, Julie Banzet, ici présente, était finalement l'éditrice plus que l'autrice sur le livre Face à l'abîme, par exemple. Et voilà, donc j'ai demandé à des amis anthropologues, géographes, historiens, ou juste amateurs de livres, de le lire et de me dire ici ça va, ici ça va pas, parce que là j'étais vraiment obligée de déléguer.
À l'image du livre de Denis, qui s'intitule d'ailleurs...
Sur les terres des Colomboles.
Cet ouvrage a été imprimé par Héraldi, Adi. Comme les autres ouvrages, vous essayez d'être au plus près pour fabriquer ces éditions.
Bon, dans l'idéal, si je pouvais travailler avec Vassili à Erali tout le temps, je le ferais, parce qu'il fait vraiment un travail formidable sur les images. Il revient derrière, il nous propose une très 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 légère transparence en plus pour être sûr que tel noir soit pas bouché. Enfin, il est vraiment techniquement, il est super. Il travaille sur des bons papiers. On fait vraiment des objets durables, et puis là, au niveau de l'impact carbone, on est pas mal, on fait 2 km de la maison d'édition aller à l'imprimeur, on est quand même pas mal. Après, évidemment, je peux pas faire ça pour tout, parce que Vassili a beaucoup de travail et qu'il a pas forcément les machines non plus pour relier des livres. L'imprimeur de livres, c'est quand même assez particulier, il y a le façonnage derrière, et donc on travaille pour l'instant, à chaque fois j'ai travaillé avec CEPEC, une imprimerie qui est dans l'Ain, qui est la seule pour l'instant en France qui puisse faire ce que je voulais faire dès le départ, c'est-à-dire mêler des images couleurs à du texte noir et blanc, tout en ayant des livres qui sont pas hors de prix, parce que le but, c'est quand même que les gens puissent se les acheter un jour. Je ne veux pas travailler pour l'élite, ce n'est pas du tout le propos. Donc, c'est faire des livres beaux, bien. Donc, quand même un coût, on est quand même autour des 20 euros, mais on n'est pas à 60, quoi. Voilà, avec une vraie présence de l'art où l'artiste, il n'est pas traité juste non plus comme un faire-valoir, ou finalement, si c'est l'impression est pourrie, tant pis pour lui.
Julie et Claire, quelle émotion ressentez-vous face à ce livre que vous avez créé, en quelque sorte ?
Beaucoup de joie, parce que c'est un travail très solitaire, l'écriture, et que grâce au travail avec les Colomboles et à l'édition, ça devient une œuvre collective avec le travail avec l'éditrice, mais aussi avec l'artiste. Et du coup, ça ouvre aussi au fait que ça devient le livre de chaque lecteur, c'est-à-dire que chaque lecteur qui vient me parler de sa lecture amène un autre récit, finalement. D'une expérience finalement assez laborieuse de l'écriture émerge quelque chose d'assez joyeux et collectif.
Pareil pour vous, Claire.
Moi, j'aurais envie de dire qu'au départ, je ne cherchais pas forcément une maison d'édition qui joigne à mon écriture des œuvres d'art. Ce n'était pas mon souhait. Et en fait, c'est la rencontre avec Alice qui a fait ça. Et je dois dire que c'est réussi, ça me plaît. Aujourd'hui, peut-être je suis encore plus sensible qu'avant au monde de l'art et à cette cohabitation. Et aujourd'hui, quand on feuillette le livre, quand on le remet, quand on l'offre, c'est vraiment un très bel objet. Voilà, c'est un beau livre, un bel objet, tous les livres édités aux éditions des Colomboles sont des beaux objets qu'on a plaisir à avoir dans les mains. Il y a un rapport au toucher aussi dans la... un rapport au toucher dans la lecture des livres. Oui, parce qu'on le, on l'a dans les mains. Voilà. Et je crois que c'est un pari qui est gagné dans cette petite maison d'édition, chaleureuse et humaine.
Petite
Merci.
Merci. Petite maison d'édition avec combien d'ouvrages
Pour l'instant, on en est très très peu. Hein. On est tout petit petit. Donc on a deux romans, un essai, deux livres d'art et trois si on compte. A fait un petit bonus. On se lance dans les petits flipbooks. Le plaisir de, alors vraiment là, de toucher, de tordre le livre et de faire apparaître l'image qui bouge. Donc on en a fait un tout petit avec Denis qui s'appelle « Pendant que le monde respire, la maison de mes voisins dort ». Parce qu'en fait, il a pris pendant des années en photo la maison de ses voisins. Enfin, tu l'expliqueras mieux que moi, Denis. Et le paysage derrière, la maison est immobile et le paysage se transforme. Voilà, là j'en ai un en préparation avec Cécile Verstraeten. Donc elle est en train de faire un film documentaire en fait sur le rapport interespèces humain-oiseau. Et donc l'idée c'est d'accompagner son film avec un petit livre. Donc ce serait pas une séquence en flipbook, c'est même une image qui se démultiplie, qui se met en mouvement. Voilà. Des petits objets comme ça pour ramener les gens aussi au plaisir de ces objets livres et aussi, voilà, je reviens là-dessus, leur faire prendre conscience que ce sont des objets fabriqués par des êtres humains qui ont pris du temps. Mon livre Face à l'abîme, j'ai quand même mis 10 ans à l'écrire. Donc faire les livres avec soin, c'est aussi respecter tout le travail de l'auteur en amont et c'est un signe envoyé au lecteur aussi. Vous avez là quelque chose qui a pris du temps, alors prenez le temps de le lire.
Voilà. On peut découvrir aussi sur Internet cette édition, hein, des Colomboles. D'ailleurs, peut-on expliquer le sens, la signification de ce nom, des Colomboles ?
Alors, les Colomboles, ce sont des petits insectes, enfin des arthropodes pancrustacés, si on veut être très précis, qui sont présents partout sur Terre, qui sont aussi bien sur les glaciers que dans l'humus des forêts, qui sont pour la grande majorité d'entre eux microscopiques. Les plus grands font 1 mm et vous pouvez en voir parfois dans vos pots de fleurs, des petits machins blancs qui bougent. Si on tape Colombole sur Google, on a en premier lieu nuisible, comment s'en débarrasser ? Parce que ça bouge dans le pot de fleurs et que ça fait peur. Mais en fait, c'est indispensable à l'équilibre de la vie sur Terre, ce sont des petits décomposeurs. Et donc l'idée qu'il soit invisible mais indispensable à l'équilibre, ça me semblait être à la fois une bonne allégorie pour la micro-édition et pour les sujets qu'on veut traiter. Quoi. Voilà, c'est rendre visibles des gens marginalisés, des gens invisibilisés, des histoires, des mémoires qui se perdent. Voilà. Donc invisible mais indispensable à l'équilibre.
Et puis la disponibilité de vos ouvrages à la librairie Mosaïque. Hein.
Tout à fait. Heureusement, on a une bonne librairie locale, donc la librairie Mosaïque. Après, on a un site marchand aussi que nous a fait Denis, qui nous permet de vendre en direct aux gens. On se déplace sur des salons, des festivals. Et puis, il y a des lieux de dépôt. Voilà. Donc, ça peut aussi bien être une épicerie, parfois, un tabac presse, une galerie d'art. Voilà. On a des petits lieux comme ça qui nous prennent les livres au coup par coup. Voilà. Parce qu'évidemment, pour l'instant, on n'a pas de réseau de distribution et de diffusion. Parce que ça, il faut avoir plus de visibilité déjà, il faut avoir une projection sur 2 ans en gros. Enfin voilà, on n'y est pas encore. Et puis on ira un jour, je pense, mais vers des distributeurs, des diffuseurs qui diffusent de la micro-édition, qui sont militants aussi, quoi. Parce que sinon, on est vite mangé par le groupe Hachette ou le groupe Editis. Et là, on est invisibilisé complètement.
Eh bien, je vous remercie. Toutes et tous, vous voulez rajouter ?
Juste pour préciser qu'il y a une rencontre à Mosaïque. Le 6 avril, pour présenter la maison d'édition et mon livre à tâtons. Donc le samedi 6 avril à 18h, à la librairie Adi.
Eh bien, l'émission se termine. On a largement dépassé, d'ailleurs. Je remercie en tout cas Julie Banzé, Claire Bonnel, Denis Mauplot et Alice Verstraeten d'être venues à Air du Bois pour nous présenter donc, cette maison d'édition des Colomboles, entre autres.
Merci beaucoup, merci.
Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci encore.
Au revoir.